crois cappadocien, si tu veux, ont davantage réfléchi les choses au point justement de réfuter le iota. Alors, il a connu des difficultés à Jérusalem lorsqu'il voulut rompre la dépendance de Jérusalem par rapport à Césarée. Parce que, figurez-vous, qu'avec la grande persécution, vous savez, la deuxième guerre juive, Jérusalem, qui était finalement l'église mère, elle est devenue pire que veuve, en fait, il n'y avait plus rien. Ils ont tous été, prudemment, ils étaient partis, et après c'est devenu une telle ruine, que finalement Jérusalem s'est reconstruite en dehors de toute tradition chrétienne. Alors il a fallu la conversion de Constantin pour qu'on se réintéresse à Jérusalem, qui était devenue une petite ville de province parfaitement païenne. Et ce n'est que les Juifs n'avaient pas le droit de s'approcher une fois l'an de je ne sais pas combien de kilomètres de Jérusalem. Et donc Jérusalem était tombée sous la coupe de Césarée, la grande ville de Syrie, et de Judée, enfin bref. Et donc il a essayé de redonner à Jérusalem, qui avait été visité par l'impératrice Hélène, où Constantin faisait construire des basiliques, où les pèlerinages commençaient à affluer. Il a voulu lui donner une indépendance qui aboutira d'ailleurs à la création d'un patriarcat. Donc le patriarcat de Jérusalem, avec Alexandrie, Antioche, Constantinople, et évidemment Rome. Donc vous voyez, Jérusalem, c'est un peu tardif comme patriarcat, alors que c'est quand même l'église mère. Bon. Et alors, il va aussi connaître des problèmes lorsque Constance, l'empereur, va devenir franchement arien, c'est-à-dire homéen, comme on disait, vous vous souvenez quand j'avais écrit tous les noms, où il dit que, en somme, Jésus est semblable à Dieu, mais pas consubstantiel, ni. Bref, il n'est qu'un homme divinisé, en somme. Alors là, c'est trop pour Cyril de Jérusalem, qui considère que le Christ est quand même plus que ça. Il est surtout connu, en fait, pour sa mystagogie. C'est justement ce que Pavel n'a pas fait dimanche dernier, en n'allant pas à la... T'es pas allé à l'explication mystagogique de l'archevêque à Saint, je ne sais plus quoi, le dimanche qui suit.
Ça m'intéresse ce que vous m'avez dit pendant la fête de Sisyphe.
Voilà. Et donc, en fait, je disais dans Famille Chrétienne, il n'y a pas longtemps, un article sur les baptisés. On dit qu'il faut les aider ensuite à rester chrétiens, parce qu'il y a un certain nombre qui ont du mal à continuer. Oui. Et alors, et l'auteur disait il faudrait développer la mystagogie. Alors la mystagogie, c'était l'enseignement post-baptismal. Donc il y avait des catéchèses pré-baptismales, qui avait lieu pendant le carême, etc., etc. Et puis, il y avait ensuite des catéchèses post-baptismales où on disait, maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit, eh bien, vous avez la capacité de comprendre ce qui vous est arrivé. Et c'est donc une sorte de catéchisme post-baptismal qui s'appuie sur la grâce du baptême. Alors, Cyril de Jérusalem est connu justement pour ces catéchèses pré-baptismales et post-baptismales, donc comme on dit, catéchuménales et mystagogiques. Alors, nous possédons de lui une catéchèse d'entrée en catéchuménat. Donc, nous, l'entrée en catéchuménat, on ne fait pas de prédication, on fait juste les rites. Là, il y avait au moins trois quarts d'heure ou une heure et demie de sermon. Et puis, on a 18 catéchèses baptismales qui préparent le baptême et 5 catéchèses mystagogiques qui expliquent ce qu'on a reçu au baptême, confirmation, eucharistie, puisque dans l'Antiquité, les trois sacrements étaient donnés en même temps, comme ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui pour les orientaux et même pour nous, pour les adultes, normalement, à moins qu'on veuille avoir un évêque pour la confirmation, ce qui est quand même bien. Parce qu'en fait, à l'origine, baptême, confirmation et Eucharistie étaient donnés par l'évêque pour les adultes. Maintenant, il n'y a plus que finalement la confirmation qui est un peu réservée encore à l'évêque. Alors, donc la catéchèse pré-baptismale chez Cyril de Jérusalem insiste beaucoup sur la rectitude d'intention. Ça rejoint un peu ce que je vous disais de Grégoire de Nice. C'est-à-dire, on ne va pas au baptême comme ça parce que tout le monde se fait baptiser, mais il faut vraiment vouloir se convertir pour être baptisé. Parce qu'on est déjà là, au milieu du IVe siècle, où les gens se disent, pour être bien vu des autorités, ou de sa future belle-mère, eh bien, il faut être baptisé. Et donc, les gens se faisaient baptiser sans trop vouloir changer de vie. Alors là, justement, notre Cyril de Jérusalem se rend bien compte de ça et dit, eh bien, mes chers amis, le baptême, c'est efficace si vraiment vous voulez changer de vie. Il y avait une sorte de baisse de motivation chez les candidats, vous voyez. Et puis, donc, les... alors, comment s'y prend-il? Ces catéchèses baptismales partent d'un texte de l'Écriture, normalement le texte qui est lu lors des scrutins, pour illustrer les articles de la confession de foi. Donc c'est une sorte de catéchisme, de catéchèse, qui se sert de l'Écriture pour aborder les grandes questions de la foi chrétienne. Autrement dit, le péché, la pénitence, la rémission des péchés et le baptême, proprement dit. Ça, c'est traité dans les trois premières. Ensuite, Dieu et l'homme, quatrième et cinquième. Et puis l'explication du symbole, sixième à la dix-huitième, donc la dernière. Alors, le symbole, c'est le Dieu unique, le Père, Père et Créateur, le Fils, l'incarnation, la parousie. Dans les 16e et 17e, le Saint-Esprit. Et la 18e traite de l'Église. Donc vous voyez, tout un programme, vous imaginez, 18 grands sermons qui vont jalonner la préparation baptismale du candidat. Et les catéchèses mystagogiques, elles, sont prononcées pendant l'octave de Pâques, où elles expliquent donc aux néophytes les rites du baptême, et de la confirmation, désormais qui voient à partir de du Saint-Esprit qui les éclaire, puis de l'Eucharistie 4 et 5. Donc c'est essentiellement une explication des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Alors pourquoi ? Parce que les catéchumènes étaient soumis à ce qu'on appelle la discipline de l'arcane. Alors la discipline de l'arcane, c'est qu'on leur disait, après les lectures, ce qu'on appelle, ce que vous avez dans vos missels, l'avant-messe en un mot. Eh bien, on leur disait de sortir de l'église et sancta sanctis, hein, les choses saintes pour ceux qui sont déjà saints, enfin au moins sacramentellement. Donc la partie mystérique de l'Eucharistie se réalisait que porte fermée avec les chrétiens baptisés, avec les baptisés. Et du coup, les catéchumènes n'assistaient pas à la messe, donc ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas la messe, ils ne voyaient pas l'Eucharistie. Et évidemment, comme le baptême et la confirmation étaient donnés en gros qu'une fois par an, ils n'avaient pas vu non plus. Et alors après, ils recevaient le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, et on leur expliquait après ce qu'ils avaient reçu. Vous voyez ? Donc c'était la méthode de l'époque. Alors on trouve des catéchèses semblables chez Théodore de Mopsueste, qui est un antiochien, Saint Jean Chrysostome à Byzance, etc. Donc on insistait longuement sur la conversion qui devait se manifester après le baptême. Ce qui expliquait aussi qu'un certain nombre de catéchumènes différaient leur baptême pour ne pas avoir à se convertir vraiment. Enfin, ils attendaient le dernier moment. Voilà.
C'est Constantin.
Comme Constantin. Alors, d'autant plus que certains péchés étaient quand même irrémissibles. Hein. N'oublions pas qu'on n'est pas à l'époque de la confession facile. On se confesse toutes les semaines de choses ou d'autres. Mais on est à l'époque où on se confesse finalement qu'une fois ou deux dans sa vie, deux trucs super graves. Or, le fait de verser le sang, c'était super grave. Or, quand vous étiez à n'importe quel degré quasiment de la hiérarchie administrative ou militaire romaine, vous aviez à tirer le glaive. Hein. Donc, beaucoup considéraient que une fois baptisé, il retombait dans le péché, et dans un péché qui n'était pas rémissible. Et c'est la raison pour laquelle ils différaient aussi leur baptême. Et le catéchuménat pouvait se prolonger pendant des années et des années. Songez à Saint Augustin, qui a été catéchumène jusqu'au moment où il a décidé vraiment de se convertir.
Hein, et...
Oui, il était... Il est, oh, bon, je ne sais plus, mais très longtemps. On pouvait rester sa vie entière catéchumène, quasiment. Hein, et alors, du coup, on était inscrit dans le catéchuménat, et c'est vraiment les catéchèses pré-baptismales étaient vraiment à la fin, quand les gens avaient vraiment envie d'être baptisés. Alors là, hop, ils avaient on leur donnait de la formation quasiment tous les jours. Et les autres, ben, sinon, ils restaient catéchumènes longtemps. Alors voilà. Donc, alors, je vous termine avec Synésius de Cyrène. En fait, c'est comme j'aime bien faire des plans équilibrés, il me manquait un personnage pour ma fin du IVe siècle. Et alors j'ai pris Synésius de Cyrène, qui est un personnage étonnant. 370-414. C'était un Libyen. Déjà, c'est bizarre. Un Libyen de la partie orientale de la Libye, hein, celle qui est... Oui. De famille aristocratique. Synésius, ça s'écrit S-Y-N-E-S-I-U-S, de Cyrène. Cyrène en cyrénaïque, comme Simon Cyrène. Alors, il étudie à Alexandrie et il connaît toute la littérature grecque classique. Donc, il est philosophe, rhéteur, enfin, les philosophes, les rhéteurs, les poètes, les dramaturges. Il écrit beaucoup, à peu près dans tous ses styles aussi. C'est un polygraphe, un peu comme Attali, hein, si vous voulez.
Non, pas.
Donc, il écrit en toutes sortes de genres littéraires, tout en menant une vie d'aristocrate. De véritables aristocrates, donc art militaire, vénerie, diplomatie, etc. Moyennant quoi, quand les tribus numides venaient menacer sa ville et que l'administration flanchait, que les fonctionnaires romains se barraient, en fait, lui, il rassemblait toute la milice locale et puis il allait donc combattre, donc défendre sa province contre les incursions des barbares venus du désert. Alors il a écrit des hymnes, par exemple, une qui commence assez joliment. « Au roi des cieux, nous tressons des couronnes, aspergeant son autel des paroles de prière, sacrifice non sanglant. » C'est joli. Donc il a écrit des tonnes d'hymnes comme ça, en langage libique. Et il fut élu. Oui, c'est une langue. Hein, il a été élu évêque de Ptolémaïs, et donc métropolitain de Cyrénaïque.
C'est où ça?
Alors c'est proche de... C'est sur la côte, oui, avec ça qui est habitable en gros, oui. Et proche plutôt de l'Égypte.
C'est au monde.
Voilà. Donc élu en 410, donc il avait déjà 40 ans, alors qu'en fait il n'était pas baptisé.
Ah bon?
Oui. Et,
il portait les armes.
Comme il était le Defensor Civitatis, hein, et ben finalement les gens se sont dit, on a besoin d'un évêque. Choisissons voilà, il est savant, il est courageux, il est enraciné dans notre terre. Et alors, il va se former pendant sept mois à Alexandrie, auprès de Théophile d'Alexandrie. Je crois qu'il doit être un des successeurs de saint Athanase. Et puis, il revient évêque. Voilà, au bout de 7 mois, donc il part pas baptisé, il revient évêque. Il renonce à sa vie mondaine, alors vie mondaine d'aristocrate du désert, hein, presque. Donc il renonce à sa vie mondaine, il renonce à la vie conjugale, mais la seule chose à laquelle il renonce pas, c'est son néoplatonisme. Alors il se comporte comme un évêque conscient de ses devoirs, donc consciencieux, donc, demandant conseil au moine saint Isidore de Péluse, qui est un moine qui a écrit... saint Isidore, il n'a pas écrit un banquet, lui aussi. Réprimant les hérétiques, en particulier les Ariens. Alors, j'imagine que réprimé par un évêque ancien chef de guerre, les Ariens devaient se tenir quoi? Et à l'activité de l'évêque, eh bien, s'ajoute celle du préfet qui organise la défense de la province, qui fait toutes les fonctions d'une administration un peu déficiente, jugeant même d'ailleurs les militaires pillards qui étaient censés défendre sa province, mais qui en profitaient un peu.
Mais donc, il y avait plus de militaires romains,
non? Il devait y avoir vaguement des contingents avec des milices et des choses. Oui, voilà. On est au début du 5e siècle. Hein, l'autorité romaine est lointaine. Hein, est lointaine. Alors, je pensais à lui parce que, justement, l'intercité... Vous avez entendu parler de ce livre-là de Michel de Jäger ou de Jäger, comme on dit, qui s'appelle « La compagnie des ombres ». Et qui passe en revue, enfin voilà, c'est une sorte de promenade à travers l'histoire. Et alors j'ai eu la surprise de voir qu'il citait à la fin de l'Antiquité, pour clore le chapitre sur l'Antiquité, Synésius, qu'il appelle Synésius. Voilà. Alors. Et alors, il est saisi de crainte, justement, par l'effondrement de l'Empire. Vous savez que Michel de Jäger a écrit aussi un bouquin qui s'appelle...
Les derniers jours de l'Empire romain.
Oui, c'est vrai. Oui, voilà, les derniers jours de l'Empire romain.
C'est celui qui est sorti pas longtemps,
c'est ça?
Il y a 2 ans ou 2-3 ans. Oui, voilà, c'est ça. Et là, il s'interroge justement sur le changement qu'il voit sous ses yeux, en fait le grand remplacement. C'est un sujet qu'aime bien de Jäger. Alors, voilà, moins de 20 ans plus tard, la cour de Constantinople peut continuer à donner les sublimes apparences d'un pouvoir indiscuté, indiscutable. L'empereur siégé sur son trône sous les acclamations rituelles, dans le chatoiement de la poudre d'or que l'on répand jusque sous ses pas. Il n'est plus à la tête que d'un état instable, d'un empire en sursis. Il affecte certes de tenir les barbares qui campent à ses portes pour des auxiliaires, de même qu'il considère ceux qui commandent son armée comme des citoyens romains à part entière. Il vit en réalité sous la menace de leur retournement. C'est cette illusion mortifère que dissipe soudain Synésius. Parce que lui, évidemment, il s'est retrouvé à défendre une partie de l'Empire avec... Alors, je cite... Jäger cite Synésius. Seul un téméraire ou un songe creux peut voir parmi nous en armes une jeunesse nombreuse, élevée autrement que la nôtre et régie par ses propres mœurs, sans être saisie de crainte. Nous devons en effet ou bien faire un acte de foi dans la sagesse de tous ces gens, ou bien savoir que le rocher de Tantale n'est plus suspendu que par un fil au-dessus de nos têtes. Car ils vont nous assaillir aussitôt qu'ils penseront que le succès est promis à leur entreprise. À dire vrai, les premières hostilités sont déjà engagées. Une certaine effervescence se manifeste ça et là dans l'Empire, comme dans un organisme mis en présence d'éléments étrangers, rebelles à l'assimilation qui en assure l'équilibre physique. Et alors il continue. Il dit, croire que l'on pourra... c'est Jäger qui commente. Croire que l'on pourra longtemps tolérer la présence de communautés étrangères rétives à toute romanisation et fidèles aux traditions guerrières de la vie tribale, l'encourager sous prétexte qu'elle nous assure de rassurantes victoires sur d'autres adversaires, sans voir qu'il est inévitable que cela se traduise un jour prochain par l'asservissement des populations autochtones, c'est, dit-il, faire preuve d'un aveuglement inexcusable. Car c'est une loi immémoriale de la nature qui veut que la race qui détient les armes ne se laisse pas éternellement conduire par un peuple désarmé. Il faut donc sans plus tarder constituer une armée nationale en mobilisant les citoyens romains en âge de porter les armes dans les villes et les campagnes. Chasser les étrangers des postes de commandement, leur interdire l'accès à la dignité sénatoriale. Devant l'abîme, Synésius ne croit pas raisonnable de s'en remettre au loyalisme des nouveaux venus. Nomade par nature, il profite de l'hospitalité romaine sans éprouver aucun sentiment de reconnaissance à l'égard de ceux qui les ont accueillis. Il se renouvelle en revanche par l'afflux permanent de nouveaux arrivants. Mais ce qui lui paraît le plus fou et le plus lourd de conséquences est qu'il forme par le fait de l'immigration le gros de la population des esclaves en même temps qu'il constitue, par le jeu des traités, l'essentiel des effectifs des armées romaines et qu'ils occupent, par la faveur des princes, des places qui font d'eux les maîtres de l'État. Oui, parce que tous les grands généraux de l'époque, c'était tous des Germains, en fait. Quand ce n'était pas les ministres.
Il paraît que chez les Grecs, c'était pas les Grecs, justement.